Je... Oui, on peut se... Nous en sommes aux actes d'apôtres. Voyez, donc, chapitre 1er, section 1er, paragraphe 1er, grand A, petit B, les actes d'apôtres. Alors, c'est un... Je crois qu'on en avait... Oui, non, on n'en avait pas parlé encore. Tu mesures le temps. Alors, c'est un genre littéraire, les actes, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les actes canoniques. Ils ont été élaborés, ces actes, en deux phases. La première phase, deuxième, troisième siècle. Donc, vous voyez, c'est vraiment la littérature chrétienne primitive. Justement, nos amis en ont recensé un certain nombre ici. Ce sont les actes d'André, de Jean, de Paul, de Pierre, de Thomas. Et puis, il y aura une deuxième phase, beaucoup plus tardive, et aussi beaucoup plus romancée. Alors, ce ne sont pas de pure fiction, comme les romans antiques. Hein, dans les romans antiques, souvent, on prenait un personnage connu, puis vous lui faisiez vivre plein d'aventures. Mais ils reprennent et ils élaborent des éléments de la tradition, des légendes et des récits. Et ces histoires sont destinées, on pourrait dire, au divertissement des chrétiens cultivés. C'est-à-dire, on sait un certain nombre de choses qui nous sont données par tradition, et du coup, l'écrivain va en rajouter pour présenter ça de manière agréable. Par exemple, il va décrire le paysage, faire des choses de ce genre, vous voyez. Et puis aussi à l'édification, ou alors il va introduire des dialogues. On aimait beaucoup les dialogues dans l'Antiquité. Ou alors ça sert donc au divertissement, mais en même temps à l'édification des lecteurs, et donc finalement aussi à leur instruction chrétienne. Voilà. Alors, bien sûr, ça véhicule des éléments de la tradition, des éléments probablement vrais, mais en même temps, beaucoup de fiction. Et alors après, il y a d'autres actes qui seront, qui seront des vrais romans, en somme. Alors souvent, on prend la forme d'un récit de voyage qui va souligner... les vertus de l'apôtre, confronté à un monde souvent merveilleux, continuellement changeant, parce que quand on voyage, on visite des régions différentes, donc on voit des gens différents. Donc à chaque fois, c'est un petit peu être... vous voyez, c'est comme un traité, vous auriez un traité, au lieu d'avoir le traité qui vous dit « vous êtes dans telle situation et puis vous faites de la casuistique », bah, vous, plutôt que d'un traité ennuyeux, prenez un personnage qui va dans différents milieux, différentes régions, etc., et qui retrouve les différentes situations, vous voyez, mais sous une forme plus agréable que celle d'un traité ennuyeux de casuistique. Donc, voilà, c'est un procédé littéraire pour enseigner les choses d'une manière, disons, agréable. Alors, souvent... comment ça fonctionne? La partie d'enseignement, elle est souvent dans des discours. C'est-à-dire, votre personnage, il se promène, il vit des choses, puis soudain, toc, il est confronté à une situation, il fait un discours. Alors là, vous avez un discours très, très, très construit, avec plein d'enseignements. Vous avez ça aussi dans les actes canoniques, hein, regardez les actes des apôtres. On vous raconte la Pentecôte, etc., etc., puis tout d'un coup, paf, le discours de Saint-Pierre, il y en a pour un chapitre entier. Et du coup, plein de choses passent dans le discours de Pierre. Même chose, vous avez l'histoire de Étienne. Alors, l'histoire de Étienne, il est condamné, truc, machin, etc. N'empêche que vous avez un chapitre et demi au moins de discours de Étienne, où vous avez tout un enseignement qui passe à travers la forme du discours. Vous voyez, c'est un petit peu comme les dialogues de Platon. Hein. Dans les dialogues de Platon, vous avez... enfin, vous avez un dialogue, puis soudain, Socrate parle pendant des pages, et puis vous avez, oh, tu dis vrai Socrate par Zeus, et puis hop, ça repart pendant des pages, et enfin voilà, on est un peu dans une... On utilise un genre littéraire, et on va se servir, par exemple, des discours pour faire passer des choses. Donc voilà un petit peu la forme. Alors, ce qui nous permet de nous rendre compte que ces discours qui permettent de les dater un peu, ce sont certains points d'intérêt qui recoupent la littérature d'une période. Il y a eu une période qu'on appelait l'ancratisme au début du IIe siècle, qui est finalement le refus du mariage, sous le prétexte qu'on est à la fin du monde, donc il faut voilà, et que et puis avec toujours un petit peu des traces de gnosticisme, donc tout ce qui est un peu charnel et mauvais. Et alors on voit par exemple dans ces actes que on va mettre sous la bouche d'un apôtre un discours contre le mariage, ouais. Et c'est là ce qui nous permet ce qui a permis aux évêques de se dire désolé, ça ne peut pas être canonique. Donc, c'est là, vous voyez, c'est comme ça que les évêques ont constitué le canon. Hein. Ils se sont rendus compte que des choses qui étaient... On recourait à la pseudépigraphie. Après tout, pourquoi il n'y aurait pas eu des actes de saint Paul, hein, ou des actes de je ne sais pas qui, de saint André? Eh bien, tout simplement, c'est parce que le contenu ne colle pas avec la règle de foi, disons, déjà à peu près formulée au début du IIe siècle. Et puis aussi, soudain, on s'aperçoit que ça fait son apparition dans les lectures des églises à une période et que ça n'existait pas avant. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi André, qui serait mort dans les années 60, 70, 80, pourquoi ces actes apparaissent seulement en 150 ou, voyez, alors que les lettres de saint Paul, elles circulent depuis les années 50, voyez. Donc c'est là qu'on a fait cette distinction. Alors du coup, c'est intéressant peut-être de lire le canon de Muratori. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas le canon de Muratori, là, la feuille, tout le monde a sa feuille? Oui, comme tout le monde. Ah, très bien. Alors, si je prends le texte, ça vous donne exactement le canon tel qu'il va se dessiner, tel qu'il apparaît. Et alors là, en plus, c'est un texte italien qui reflète la vision de l'Église de Rome de Milan au IIe siècle. Alors, donc je le lis. Marc s'est conformé aux prédications de Pierre, à celles du moins auxquelles il fut présent, et a rédigé d'après cela. Donc on sait du coup que Marc a été le secrétaire de Saint-Pierre à Rome, et peut-être même à Antioche avant. Troisièmement, le livre de... Donc vous voyez qu'il nous manque le début, hein, Matthieu. Troisièmement, le livre de l'Évangile selon Luc. Celui qui était médecin, on dit Saint-Paul à un moment, dit le cher médecin. Après l'ascension du Christ, Paul l'ayant pris pour second à cause de sa connaissance du droit, il écrivit avec son assentiment ce qu'il jugeait bon. Cependant, lui non plus ne vit pas le Seigneur dans la chair. Et par conséquent, selon ce dont il avait pu s'informer, il commença à le dire à partir de la nativité de Jean. Le quatrième évangile est de Jean, l'un des disciples. Vous voyez, disciple, dit pas apôtre. Hein. Comme ses condisciples et ses évêques l'exhortaient, il leur dit: jeûnez avec moi à partir d'aujourd'hui durant 3 jours, et nous nous raconterons les uns les autres ce qui nous aura été révélé. La même nuit, il fut révélé à André que Jean devait tout écrire en son nom propre avec le visa de tous. Et par conséquent, quoique chaque livre des évangiles enseigne autrement les premiers faits, la foi des croyants n'y fait aucune différence, puisque c'est un même esprit souverain qui expose toutes choses dans chacun d'eux, sur la nativité, la passion, la résurrection, la conversation avec ses disciples et son double avènement, méprisé qu'il fut au premier dans un état de bassesse, revêtu de la puissance royale au second, glorieux, encore attendu. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que Jean affirme si fermement chaque chose aussi dans ses épîtres, disant en parlant de lui: ce que nous avons vu de nos yeux et entendu de nos oreilles et que nos mains ont touché, voilà ce que nous vous avons écrit. Car, de cette façon, il se donne non seulement comme ayant vu et aussi entendu, mais encore ayant écrit tous les actes admirables du Seigneur selon leur ordre. Mais les actes de tous les apôtres ont été écrits en un seul livre. Luc fait entendre à l'excellent Théophile que toute chose s'était passée de son temps, et il le montre évidemment en laissant de côté la passion de Pierre et aussi le départ de Paul quittant la ville pour l'Espagne. Ça, vous allez avoir la suite dans un passage que je vais vous lire justement de la Prima Clementis. Quant aux épîtres de Paul, quelles elles sont, de quel lieu ou pourquoi elles ont été adressées, elles-mêmes le font connaître à ceux qui veulent bien l'entendre. Tout d'abord aux Corinthiens, pour leur interdire le schisme de l'hérésie, et ensuite aux Galates, la circoncision. Il a écrit plus longuement aux Romains pour leur inculquer quel est le rang des Écritures et comment le Christ en est le principe. De chacune de ces épîtres, nous avons à discuter, puisque le bienheureux apôtre Paul lui-même, suivant la manière de son prédécesseur Jean, n'a écrit sous leur nom propre qu'à cette église. Selon cet ordre, la première aux Corinthiens, la seconde aux Éphésiens, la troisième aux Philippiens, la quatrième aux Colossiens, la cinquième aux Galates, la sixième aux Thessaloniciens, la septième aux Romains, quoiqu'il ait récidivé avec les Corinthiens et les Thessaloniciens par manière de retouche. On sait pourtant qu'il n'y a qu'une seule église. Vous voyez, c'est très intéressant. Hein. On sait pourtant qu'il n'y a qu'une seule église répandue sur tout le siècle de la terre, car Jean lui-même, tout en écrivant l'Apocalypse à sept églises, s'adresse cependant à toutes. Que s'il existe une épître à Philémon et une à Tite et deux à Timothée, par attachement et affection, cependant, parce qu'elles tendaient à l'honneur de l'Église catholique, par le bon ordre de la discipline ecclésiastique, elles ont été composées avec un caractère sacré. Donc vous avez toutes les lettres de saint Paul. Il circule aussi une épître aux Laodiciens et une autre aux Alexandrins qui prennent faussement le nom de Paul pour soutenir l'hérésie de Marcion et beaucoup d'autres pièces qui ne peuvent être reçues dans l'Église catholique car il ne convient pas de mêler le fiel au miel. Donc l'épître aux Laodiciens, en revanche, elle figure dans la Vulgate parce que saint Jérôme croyait, comme elle circulait, mais elle avait été intégrée dans la Vulgate. Mais vous voyez que le fragment de Muratori l'invalide en disant qu'elle sent trop la gnose de Marcion.
Ça n'a pas gêné saint Jérôme ?
Non, ben... Je ne sais pas pourquoi Jérôme l'a mis, peut-être parce que Damas l'avait demandé.
C'est pour ça que je dis que ça ne l'a pas gêné, parce que c'était un peu gnostique.
Ah oui, voilà. Assurément, l'épître de Jude et deux inscrites au nom de Pierre sont dans l'Église catholique, et une de Jacques. Alors ça, c'est peut-être, vous voyez, entre parenthèses, c'est peut-être un rajout d'un copiste. Nous recevons aussi une Apocalypse de Jean et une de Pierre seulement, que quelques-uns des nôtres ne veulent pas qu'on lise dans l'Église. Et de fait, ils ont gagné parce que l'Apocalypse de Pierre, hein, c'est considéré comme écrit apocryphe. Quant au pasteur, Hermas l'a écrit récemment de notre temps dans la ville de Rome, pendant que l'évêque Pie Ier, son frère, était assis sur la chaire de la ville de Rome. Et après, on verra le pasteur d'Hermas, mais voyez que il est accueilli sous certaines conditions dans le canon de Muratori. Et la sagesse de Salomon a été écrite par Philon en l'honneur de la dite sagesse. Alors, en fait, là, c'est pas la même sagesse que la sagesse de l'Ancien Testament que nous avons dans notre Bible. Et bon, c'est pas de Philon non plus, et elle n'est pas non plus dans le Nouveau Testament. Et par conséquent, il faut bien la lire, mais on ne peut la présenter officiellement dans l'Église, au peuple, ni parmi les prophètes, dont le nombre est complet, ni parmi les apôtres, dans la fin des temps. Donc vous voyez, c'est un texte pieux qu'on peut lire, mais que l'auteur du fragment ne considère pas comme étant canonique. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment... Alors ça, des choses comme ça, vous en aviez au Concile de Carthage pour l'Église d'Afrique du Nord, etc. Et en confrontant tous leurs documents, ils finissent par se dire « ben, il y a trop de doutes sur un tel, on l'exclut. » Donc voilà.
Pourquoi il n'y a pas l'Épître aux Hébreux ?
Ah si, il en parle là, de l'Épître aux Hébreux. Il dit que s'il existe une Épître à Philémon... Ah non. Non, ben voyez, l'Épître aux Hébreux, il n'y est pas. Et oui. Alors, par contre, dans un autre document... dans un autre canon, eh ben on dira que certains l'attribuent à Paul mais qu'elle n'est pas de Paul. Donc l'attribution de l'épître aux Hébreux à Paul a été contestée dès l'origine. C'est pour ça que dans la liste canonique des écrits du Nouveau Testament, vous avez toutes les lettres de Paul classées à la manière antique par ordre décroissant de longueur, comme les sourates du Coran. Hein. Ça commence par Romains, qui est la plus longue, puis ça se termine par Philémon, qui est la plus courte.
Ah non, c'est... Oui, c'est ça, c'est plus long.
Mais dans l'Antiquité, on faisait souvent comme ça. Hein. Et curieusement, la lettre aux Hébreux, qui est longue, elle est à la fin du corpus paulinien, parce qu'il y a toujours eu des doutes sur son attribution à saint Paul. Alors, les penseurs actuels, enfin, les exégètes actuels, pensent qu'elle est peut-être d'Apollos, et peut-être davantage de Barnabé, sachant que la lettre qui est sous le nom de Barnabé n'est pas de Barnabé, puisqu'aujourd'hui on parle de pseudo-Barnabé. Donc, voilà.
Il ne parle pas de Jude non plus, l'épître de Jude.
Ah, si, il parle de Jude, là.
Ah bon ?
Oui. Et alors, en fait, l'épître de Jude, c'est un double de la deuxième de Pierre. Si vous lisez la Seconda Petri et Jude en synopse, vous avez quasiment, la virgule près, si j'ose dire, le même texte. On n'y pense jamais parce qu'on ne les lit jamais. Mais elles font deux pages, hein, elles sont vraiment courtes.
Et les actes des apôtres, c'est Luc et Paul ?
Alors en fait, c'est Luc qui a écrit.
C'est Luc qui a écrit.
Alors il y a des passages en nous et il y a des passages autrement. Ouais. Les passages en nous, c'est quand Luc est avec Paul. Et Paul avait probablement assez mauvais caractère.
Ouais.
Et on ne sait pas trop de Luc. Hein. Mais en tout cas, Paul, à un moment,
ça a toujours bon
on
caractère.
Sent que Luc, à un moment, a pris ses distances avec Paul.
Ouais.
Donc, et par contre, Paul a dû lui raconter après, parce que Paul il avait bon cœur quand même. Je pense qu'une fois s'être fâché avec quelqu'un, il devait revenir. Bon. Et alors donc, il a dû re-raconter à Luc ce qu'ils ont fait. Alors Luc, en tout cas, a pris... a fait le récit de ce que Paul, Barnabé et compagnie ont fait quand lui, il n'était pas là. Et il y a d'autres passages où il est là, où il raconte, lui, pour le coup, ce qu'il a fait. Par exemple, le naufrage de Malte. Comme je disais dans le voyage à Malte, c'est probablement l'un des naufrages les mieux documentés de l'Antiquité. Mmh. On peut quasiment faire un script et un film. Un documentaire. Donc voilà un peu pour les...
Et alors, en fait, Luc a écrit son évangile uniquement à partir de l'évangile de Jean ?
Ah non, non, non.
Parce
en fait,
que, je ne sais pas ce qu'il dit, là.
Oui, alors, il parle de... Alors ça, c'est peut-être une pieuse légende aussi qu'il rapporte. Luc était médecin... Non, regardez. Celui qui était médecin, après l'ascension du Christ, Paul l'ayant pris pour second à cause de sa connaissance du droit, il écrivait avec son assentiment ce qu'il jugeait bon.
D'accord. Et après
Cependant,
c'est bien Luc qui dit ça. C'est bien Luc qui ne voit pas le Seigneur.
Oui, il ne voit pas le Seigneur, c'est un disciple.
Je ne l'ai jamais vu.
Voilà. Et par conséquent, ce dont il avait pu s'informer, il commençait à le dire à partir de la nativité de Jean-Baptiste.
Oui, j'entends bien. Voilà. Mais à partir de la nativité de Jean-Baptiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire...
Ça veut dire que probablement...
Parce qu'ils étaient jumeaux, quasiment, Jean-Baptiste
oui,
et...
Oui, c'est ça. La nativité de Jean-Baptiste, c'est en même temps, c'est les évangiles de l'enfance, comme on dit, les premiers et deuxièmes chapitres. Et alors, par contre, visiblement, l'auteur du fragment de Muratori ne sait pas que Luc aurait peut-être interrogé la Vierge Marie pour avoir les deux premiers chapitres de son évangile. Il aurait peut-être interrogé Jean qui avait vécu avec la Vierge Marie à Éphèse, voyez, Jean l'évangéliste. Mais sinon, il a certainement mis ensemble des éléments de la prédication apostolique. Hein,
c'est ça, en fait, c'est ça. C'est
de Pierre, Paul.
Il a compilé voilà, pratiquement.
Comme Marc. Marc aussi,
Marc.
Probablement. Certains disent que Marc aurait pu être le jeune homme qui s'enfuit tout nu au moment de la Passion. Non, il s'appelait Jean-Marc. Mais des gens, il y en avait des tonnes. Des Marc, il y en avait des tonnes. Bon,
pseudo-Marc, peut-être.
Oui, voilà.
Pseudo-Jean-Marc.
Et alors, on n'est pas absolument certain que ce soit le même. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, d'après le fragment de Muratori, mais d'autres textes encore, on sait qu'il aurait été le scribe de Pierre. Pierre, qui ne devait pas être un super écrivain, ou alors quand il parlait, quelqu'un prenait en note. Hein. Souvent dans l'Antiquité, jusqu'au Moyen-Âge compris, on prenait en note ce que disait l'auteur principal, qui lui parlait, et pendant ce temps-là, les scribes notaient. Et donc Marc aurait été. Alors je crois que c'est, je ne sais plus qui dit, Marc aurait mis tout ça sans ordre. Je ne sais plus, c'est dans un autre canon, un autre auteur, peut-être qu'on verra plus tard. Alors bon, les exégètes modernes disent qu'en fait l'évangile de Saint-Marc est extrêmement bien construit, mais que peut-être à la première lecture ça paraît un peu désordonné. Donc voilà pour ce canon. Et un peu pour. Alors si on continue un peu dans les actes,